Vanessa, Sophie, Clara, Estelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes. Bienvenue, aujourd'hui je reçois Émilie qui est art-thérapeute. Bonjour Émilie.
Eh ben bonjour Sophie.
Comment es-tu devenue art-thérapeute ?
Alors c'est un grand parcours déjà, si on remonte à loin. Je chante depuis très longtemps et j'ai eu un parcours musical assez varié, divers. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de groupes de bal, très jeune. Enfin très jeune, 16 ans quand même,
oui, c'est très
la majorité. Hein. Mm-hmm. J'ai commencé aussi le piano à 11 ans, mais c'était vraiment le chant moi qui m'appelait. Hein. Et j'ai ensuite fait une comédie musicale. Et puis en 2001, j'ai décidé de monter mon propre groupe.
D'accord.
De pop rock.
Très bien.
Voilà.
2001, t'as quel âge à ce moment-là ?
Eh bien, j'ai 19 ans.
C'est très jeune encore ?
Eh oui, c'est très jeune, mais j'ai un coup de cœur en fait. Je rencontre dans un autre groupe au préalable, Eric, qui sera donc le bassiste du groupe. Et en fait, on se retrouve, on m'appelle pour venir chanter dans un groupe de métal. Donc je me dis, tiens, j'ai jamais fait, je teste, j'ai très envie. Et puis ça dure un petit peu, et puis finalement il y a des désaccords, et Eric qui est le bassiste qui leur dit « Mais attends, on a trouvé une chanteuse, c'est super, qu'est-ce que vous voulez de plus ?» Et donc il décide de claquer la porte et il m'emmène avec lui.
D'accord. Voilà. Lui, ça faisait longtemps qu'il était dans un groupe ?
Oui, il avait fait plusieurs choses avant dans différents groupes, et puis, mais c'était vraiment un autodidacte en fait dans la basse. Il n'avait jamais pris de cours, il s'amusait quoi. C'était vraiment par passion et puis par plaisir. Et ça lui a vraiment pas plu en fait que ça se passe comme ça, parce que lui, il avait trouvé que ça se passait bien, qu'on était une belle harmonie, et finalement, bon. Du coup, il est parti, il m'a emmené avec lui. Et il m'a dit, bon, faut qu'on fasse quelque chose tous les deux, en tout cas.
Tu pars monter un nouveau groupe. Et ta vie, à ce moment-là, est-ce que tu es uniquement une artiste ou est-ce que tu as un petit boulot salarié à côté ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, je suis en pleine étude, en BTS, d'assistante gestion PME-PMI. Donc, c'est une section qui s'est ouverte très tardivement, dans les années 97-98. Comme j'ai un bac en compta, je ne veux pas trop me spécialiser en compta, donc je décide de faire cette branche qui me permettrait en fait d'intégrer les entreprises et puis de faire un petit peu tout, c'est-à-dire la compta, l'administratif, la partie un petit peu commerciale, relationnelle. Donc je suis en plein BTS, première année de BTS, assistante de gestion PME-PMI, et en parallèle, donc je crée ce groupe dans le but de, bien évidemment, de faire des reprises, mais vraiment d'être dans la création.
Eric aussi était dans la création ? C'était un travail commun ou tu avais vraiment envie d'apporter ta propre fibre et ta propre création ?
Alors non, lui, il avait déjà un petit peu écrit des textes, mais il était un petit peu tout seul dans ce mode-là. Il faisait beaucoup de reprises avec les groupes précédents. Et en fait, ce qui l'a animé aussi, c'est d'avoir envie de créer. Donc nos propres chansons, nos propres musiques. Et c'est cet engouement-là, en fait, de pouvoir aussi faire cette partie en ma compagnie, quoi.
Donc vous avez mené de front. Alors d'abord une vie étudiante pour toi, est-ce qu'après t'es partie dans le salariat ou est-ce que vraiment tu t'es dit non, moi ça va être, à ce moment-là j'entends bien, toute ma vie ça va être d'être une artiste, donc je ne fais que ça.
Eh bien non, malheureusement. C'est resté en fait une passion, mais voilà, on est revenu un petit peu à la raison de se dire bon, il faut travailler. Et en 2002, en fait, j'ai terminé mes études et je suis partie à Blois parce que j'étais dans le Loiret avant. Donc du côté de Gien, et je suis partie à Blois parce qu'à l'époque j'avais suivi mon conjoint. Donc la distance, pour autant, ne nous a pas tant éloignés que ça, puisque je revenais régulièrement, puisque ma famille est sur Gien aussi. Et donc on avait l'occasion de se voir régulièrement et ça n'a pas empêché en fait de continuer.
Tout en ayant donc commencé à établir une vie de famille avec un métier à Blois.
C'est ça, je suis rentrée en cabinet comptable pour me faire une première expérience. C'était pas en fait ma finalité, mais j'avais envie de commencer par là pour avoir dans mon CV quelque chose d'efficient.
Et puis le temps passe, et quelle a été l'évolution qui fait que maintenant tu es devenue art-thérapeute ? Il a dû se passer énormément de choses, j'imagine.
Énorme, énorme. Autant bien sur le plan personnel, que professionnelle. Les années qui ont suivi, je me suis fait, on va dire, une expérience professionnelle. Donc suite au cabinet comptable, après j'ai enchaîné dans l'industrie. J'ai fait 5 ans. Bon, après, j'ai été licenciée économique, donc il a fallu un petit peu retrouver autre chose. J'ai fait quelques missions d'intérim en compta. Et puis, j'ai une amie qui était un expert comptable avec qui j'avais travaillé, qui m'a dit, bah voilà, tiens, telle entreprise, cherche quelqu'un, ce serait bien que tu y ailles. Donc, j'y suis allée, j'ai été prise et je suis restée donc 15 ans dans le bâtiment, en plomberie chauffage.
Précis.
Voilà. Où j'étais effectivement assistante de gestion, une société à taille moyenne où on gère un petit peu tout en fait, les clients, les plannings, la compta, administratif, les dossiers, etc.
Cette diversité te plaisait ?
Oui, parce que j'avais pas envie de m'ennuyer en fait sur une tâche en particulier ou sur des dossiers en particulier. Le cabinet comptable me convenait pas plus que ça. C'était très intéressant, mais j'avais envie dans mes journées de faire plein de choses différentes. C'est ce qui m'animait en fait. Et c'est pour cette raison que j'avais choisi le BTS assistant de gestion, parce que c'était plus polyvalent.
Là vraiment, t'es dans cette polyvalence.
Ouais, tout à fait. Et ça me convient. Ça me convient qu'au moment où... Alors, le groupe en parallèle continue. On se produit un petit peu à droite à gauche, mais c'est vraiment encore... de la passion, mais on compose. Donc là, sort déjà en 2003 un premier titre qui s'appelle « Désarmé », qui relate, pour dire, le divorce de mes parents, en premier lieu. Et puis, donc, on continue à composer. En 2010, je fais une pause avec le groupe parce que, voilà, je deviens maman. Donc, j'ai plus trop le temps. Ça reste dans un coin de ma tête, hein, bien sûr, parce que ça me manque, en fait. Mais voilà, il y a une pause qui s'opère obligatoire parce que j'ai plus trop le temps. Et puis, trois ans après, là, j'ai une grosse remise en question. Donc, on est en 2012, 2013. Même ça a commencé un petit peu avant, mais je n'étais pas forcément très bien sur le plan personnel. Et ça a été le déclencheur pour me mettre en route sur ma propre thérapie. Voilà. Donc, j'ai commencé par là. Je pense que c'est quand même important, hein, quand on fait de la thérapie, déjà de faire la sienne. Donc, j'ai commencé ça. J'ai été suivie pendant 3 ans.
Et thérapie, alors là, tu as fait appel à quel type de thérapie ? Est-ce que tu es allé chercher un peu différentes façons de faire ou tu t'es plus arrêté sur une technique particulière ?
Alors, à l'époque, je ne connaissais pas trop tout ce qui se fait un petit peu maintenant, il faut être clair. Je suis partie sur une thérapie classique en psychologie, mais en parallèle, je faisais aussi du shiatsu. Donc, ça m'a permis d'allier corps et esprit, on va dire, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Et là, j'ai commencé à me connaître.
Première rencontre vraiment finalement avec toi-même ?
On peut dire ça comme ça. En tout cas, savoir ce que je ne voulais plus, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on veut. En tout cas, savoir ce qu'on ne veut plus dans sa vie. Donc là, ça a remis beaucoup de choses en question. Et il y a eu un gros, 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 gros ménage.
Un ménage qui est venu toucher ta sphère personnelle et ta sphère professionnelle.
D'abord la sphère personnelle, et puis après, un peu plus tard, la sphère professionnelle. Oui, parce que ça a remis tout plein de choses en route en moi. Et j'avais plus la même vision. Ce pourquoi j'étais destinée, entre guillemets. En fait, quand on a une famille très cartésienne, ouais, il faut faire des études, et puis il faut faire ça, et puis ça c'est bien, et puis tu vas voir, il faut avoir le cliché, mais voilà, la maison, le chien, la voiture. C'est assez drôle, mais c'est un petit peu... En fait, c'est le côté sécuritaire. C'est et puis bon, la compta, on va pas se mentir, hein. Il faut que ça soit... d'un côté comme de l'autre, aux petits oignons, parce qu'un bilan, c'est un bilan, quoi. Les résultats, les chiffres...
Tu ne t'es pas amusé à rajouter des chiffres qui n'existaient pas ?
Non, pas vraiment. Effectivement, il y a tout qui me faisait dire que c'était ma voie, mais au final, c'est pas ce à quoi, au fond, j'aspirais. Mais ça, je le savais pas. Donc ça a été la découverte, en fait.
Comment tu t'es sentie à ce moment-là ? Alors, tu es en train de te remettre en question ? C'est un moment où tu envoies tout balader, où tu arrives à maintenir un certain équilibre quelque part. Comment ça se passe à ce niveau-là pour toi ?
Je dirais, je renoue le lien social. Parce que j'étais à un moment dans ma vie où je me suis enfermée, où je me suis éloignée de mes amis très proches en plus. Moi, j'ai une amie qui a 30 ans d'amitié. Et là, j'avais vraiment cette souffrance, en fait, de plus la voir, de plus les côtoyer, parce que ma sphère personnelle, c'est un peu comme si je m'étais endormie, quoi.
En plus, tu avais abandonné le champ, ce qui a dû accentuer ce côté endormissement, j'imagine.
Oui, également. C'est vrai que c'était dans ces moments-là. Et inconsciemment, ça me manquait, en fait. Voir du monde, d'avoir du lien. Ouais, c'était aussi le déclic.
Il y a eu un déclic.
Il y a eu un gros déclic.
Et donc, tu continues ton évolution. Et là, tu commences à expérimenter quoi pour changer ta vie professionnelle ?
Alors, il y a un petit passage à vide où je me retrouve seule avec ma fille. Ça, c'est en 2014-2015. Je me dis, en fait, c'est là. Vraiment, je me dis, professionnellement, il faut que je change. Enfin, en tout cas, il y a un début qui me fait dire que j'ai plus envie de faire ce métier. J'aime mon métier. Je suis hyper bien dans la société parce que j'ai un patron super sympa. On s'entend très bien. Il n'y a personne au-dessus. Donc, j'ai directement affaire à lui et ça me convient. Je suis plutôt bien considérée, même très bien considérée. Donc, vraiment, il n'y a rien... Je dirais, c'est pas ce qui m'a fait quitter l'entreprise, c'est pas l'ambiance, c'est pas tout ce qu'on pourrait penser où les gens font des burn-out, etc., parce que ça se passe mal. Pas du tout. C'est moi, en fait. Je me suis dit, non, il faut que j'évolue autrement. Je sais pas, il y a quelque chose qui... Alors, j'étais partie sur la naturopathie, et puis j'avais fait une demande au fonds gestif, voilà. Bon, ça a été refusé. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas pour moi, il y a peut-être autre chose. Et puis, il y a eu un déclic avec le magnétisme.
Comment tu as rencontré le magnétisme ? Parce que tu viens quand même d'une famille cartésienne. Oui. Donc j'imagine que ça n'a pas été un élan immédiat chez toi d'aller voir une magnétiseuse.
Pas du tout. Et ça a été même plutôt très particulier comment ça s'est fait. En fait, il faut savoir que mon grand-père était atteint de la DMLA.
Oui.
Donc c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et on lui avait dit à l'époque, bon voilà, on va essayer des traitements, des piqûres dans les yeux. C'est de la souffrance hein, quand même. Hein.
C'est invasif comme traitement, effectivement.
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui il y a eu des avancées là-dessus, mais il y a déjà 10 ans, ce n'était pas concluant. Et donc, un jour, un rendez-vous de l'ophtalmo, elle lui dit « vous voyez mal, bon, c'est normal à votre âge, vous êtes âgé. » En fait, quand il est allé voir le professeur, il dit « maintenant, vous êtes en train de perdre un œil, vous avez cette maladie. » Et là, on s'est dit « ouh là là, mon grand-père était plutôt quelqu'un d'actif, il faisait du vélo, il faisait beaucoup de choses avec le cuivre, avec ses mains. » Enfin, c'était un artiste. Et on s'est dit « oh là là, s'il commence à plus voir, là, je crois qu'on va le perdre. » Qu'il a engagé ses traitements, mais pour son œil gauche était fichu. Donc on lui a dit, faut surveiller l'autre. Et puis à un moment donné, ça a commencé à attaquer l'autre. Il a dit, faut tout de suite faire le traitement. Mais le traitement n'a pas fonctionné. On s'est tous regardés autour de la table, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas de solution. Sur le plan médical, il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était pas concluant. On s'est dit, va finir aveugle, ça va être une catastrophe, quoi. Et mon père qui lance d'un coup, pourquoi tu n'essaierais pas le magnétiseur ? Et là, lui qui était pas trop pour ces choses-là, a dit « écoute, c'est vrai, j'ai plus rien à perdre ». Et en fait, ça a été le déclencheur. Pour moi aussi, parce que à la suite de ça, j'ai vu que la maladie n'évoluait plus. Alors bien sûr, il faisait ses traitements en parallèle, mais ça ne changeait rien. Ça avait même presque pas servi à grand-chose. Il a arrêté les piqûres au bout d'un moment parce que c'était plus possible, puis ça servait à rien.
Mmh.
Et il a été suivi pendant jusqu'à son décès l'année dernière. Il avait quand même 93 ans, il a fini, il est décédé, il voyait toujours. À partir de ce moment-là, quand il a commencé à voir ce magnétiseur et que j'ai vu que ça bougeait plus, donc on ne peut pas revenir en arrière avec le magnétisme, on peut juste, entre guillemets, stopper l'avancée. Et là, ça a été l'effet waouh, quoi. Je me suis dit, mais attends, il y a un truc, quoi. Et ça m'a appelé, en fait. Et j'ai commencé comme ça.
Alors, tu commences comme ça. J'imagine, puisque tu es dans une période où toi, tu te soignes, tu as eu recours à des magnétiseurs pour régler des problèmes personnels ?
Eh bien, même pas.
Même pas ?
Non, parce que ça vient après. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, c'était plutôt la psychologie et le shiatsu parce que c'était que ça que je connaissais. Et en fait, j'ai jamais eu recours au magnétisme, personnellement. Donc, c'est assez particulier. Hein.
Oui, c'est particulier. Mais par contre, tu vas développer une connaissance du magnétisme que tu vas pratiquer.
Oui, c'est ça. Alors, je commence un petit peu à me documenter, à regarder, à faire quelques formations, je dirais. Mais le vrai déclic, après, il sera quand je vais rencontrer Pierre Yonas. Là, vraiment, ça a tout changé sur la façon de pratiquer, sur la déontologie, sur tout ça. Parce qu'il faut comprendre qu'on est des aidants. Et que les gens, ils continuent leur traitement sur le plan médical. Donc on vient accompagner. Et c'est ça aussi, toute cette déontologie-là, c'est très important. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas. Hein. On ne reçoit pas les femmes enceintes. Nous, on ne déshabille pas les gens. Des fois, les gens, ils arrivent. J'enlève mon t-shirt, vous montre mon zona. Non. Moi, je ne veux pas voir, en fait. Vous avez été diagnostiqué. Bon, très bien, on travaille, et puis c'est tout. C'est très important, en fait, de respecter ça dans le magnétisme.
Qui est Pierre Yonas ?
Alors Pierre Yonas, il est médium, magnétiseur, guérisseur, et il a participé au livre de Stéphane Alix sur le test. Donc Stéphane Alix avait perdu son papa, avait caché des choses dans le cercueil de son papa, et a interviewé 6 médiums quand même de réputation nationale. Et donc Pierre Yonas en fait partie. Et c'est comme ça que c'est arrivé, parce que j'ai une autre de mes amies qui est magnétiseuse aussi. Donc en Normandie. Et elle me dit, écoute, tu veux pas qu'on fasse le cursus ensemble ? Bon, ça a été décalé, ça s'est pas fait parce que du coup, elle est tombée malade. Donc, on a dû décaler nos sessions. Mais voilà, ça s'est fait, mais pas ensemble.
D'accord.
Voilà. C'est vraiment, Pierre Yonas, si on veut suivre quelque chose de sérieux, avoir une déontologie professionnelle et puis un apprentissage clair, net et précis, sans équivoque, je le recommande.
Donc là, on n'est quand même pas encore arrivé à l'art thérapie. Et est-ce que la musique est déjà revenue dans ta vie à ce moment-là ?
Alors, on n'est pas encore tout à fait à l'art thérapie, effectivement. La musique revient en 2015-2016, parce que je renoue contact avec le guitariste de notre groupe. Parce qu'en fait, j'ai fait un saut énorme, et entre-temps, Eric et moi, on n'était pas tout seuls. Il y a eu d'autres membres dans le groupe. Et Cédric est là depuis 2004. On reprend contact. Et quand on reprend contact, lui s'est séparé de sa conjointe, donc élève seul ses trois enfants. Et ben moi, je suis en phase de séparation aussi. Et on se retrouve, et puis on décide de s'alléger l'esprit avec tout ça, et de repartir en fait ensemble avec Eric, Cédric, et puis on intégrera Jérémy à la batterie, un autre guitariste, Julien. Donc on se retrouve à 5.
C'est voilà. Un bon groupe ça.
C'est pas mal, hein. Mm-hmm. Voilà. Après, on ne peut pas toujours jouer partout, parce qu'une batterie pour sonoriser, c'est pas toujours évident. Dans des petits endroits, c'est pas facile pour jouer. Mais bon, on arrive à faire quelques concerts, on reprend le répertoire, on remet en route pas mal de choses, et puis on se dit, allez hop, on fait quelques dates dans l'année, histoire de se faire plaisir. Voilà, c'était plus histoire de se faire plaisir et de prendre du bon temps, en fait, en faisant ce qu'on aime.
Ils sont tous encore sur Gien ou vient du mouvement ? Est-ce que c'est plus devenu blésois qu'avant ?
Alors, pas du tout, en fait. Ils sont tous sur Gien, mais c'est pas du tout blésois. Quoique, et la petite anecdote quand même qu'il faut connaître, c'est que post-Covid, en fait, on a perdu deux membres. Ils ont arrêté. Les gens se sont un peu endormis. Hein, et ça a été compliqué, en fait, de relancer le truc. On est reparti à trois. Entre-temps, Cédric est devenu blésois. Et donc, il est venu chez moi. Depuis, on s'est mariés. On a eu une petite fille ensemble. Le groupe est reparti aussi à ce moment-là. Et comme on n'était plus que trois, il a bien fallu trouver une solution. Et on ne voulait pas trop se relancer à chercher un batteur, en fait. On n'avait plus envie de remonter quelque chose, de relancer, de se dire, tiens, est-ce que la personne va être là 6 mois, 1 an ? C'est toujours un peu compliqué quand on ne connaît pas les gens. Alors on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis Cédric, qui est plutôt doué et qui... D'ailleurs, un peu énervant. C'est un peu frustrant, des fois. Il est guitariste, il n'a jamais appris le solfège ni quoi que ce soit, mais il va prendre une basse, il joue, il se met derrière une batterie, il joue. Il a un violon, il joue. Des facilités.
Il doit avoir un petit peu l'oreille absolue.
On n'en est peut-être pas loin, mais en tout cas, relative. Et il a investi dans les pédales pour les guitares et il a décidé d'enregistrer toutes les lignes. C'est-à-dire, on ne prend pas ce qui existe déjà, il refait tout. De A à Z. Donc la batterie et tous les arrangements derrière, s'il y a des claviers, s'il y a du violon, voilà. Il fait toutes les lignes et il enregistre ça sur sa pédale. Et puis comme ça, on peut jouer à trois.
Parfait. Voilà. Donc Eric a toujours été là depuis le début. Ouais. Il est toujours là. Oui. Mais lui, il continue à vivre à Gien.
Tout à fait.
Donc là, on sent que la musique revient. Il y a déjà un métier de soins qui s'est mis en place. Tu t'es installée en tant que magnétiseuse. Comment t'as fait ?
Oui. Je me suis installée chez moi directement et donc j'ai monté la société en 2018.
Et tu as pris quel statut à ce moment-là ?
Le statut d'auto-entrepreneur, c'était plus facile parce qu'à l'époque j'étais encore en entreprise.
Tu cumulais les deux ?
Oui, alors justement j'avais un patron très sympa. Avec lequel j'avais partagé en fait mon souhait d'évoluer différemment et il a complètement compris. Il m'a dit te laisse ton jeudi si t'as besoin. Non, vraiment il a été dans une compréhension top, je le remercierai jamais assez.
Important de le dire.
Oui, oui, vraiment. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance. Et il y a un respect mutuel aussi. Voilà. Donc, j'avais mes jeudis pour pouvoir commencer à démarrer. Donc, je travaillais lundi, mardi, mercredi, vendredi. Et le jeudi, j'étais chez moi.
Donc, tu commences à développer une clientèle. Tu aurais très bien pu t'installer comme magnétiseuse. Comment on en arrive tout d'un coup au fait que tu as décidé que tu serais plutôt art-thérapeute ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, c'est vrai, c'est une bonne question, hein, j'avoue. Je pense que j'avais quand même besoin de toujours ce côté enracinement, alignement. Il me fallait autre chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il me fallait aussi autre chose parce que j'avais envie d'allier ma passion, dont je ne pouvais pas vivre.
Donc en fait, tu te sentais un peu incomplète en tant que magnétiseuse.
Oui, je pense que c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que le fait de reprendre la musique, le chant, on se dit, il n'y a pas grand monde qui peut arriver à en vivre. enfin, c'est pas tout le monde, quoi. Mmh. Donc, il faut que ça reste une passion, mais en même temps, j'ai envie de l'intégrer dans ce que je fais. Comment c'est venu ? Ben, je sais même plus, d'ailleurs. Je sais même plus. Ça m'a plu, en fait, la façon d'aborder.
Comment tu as entendu parler de l'art-thérapie ?
Je sais plus.
Non plus.
Eh ouais, mais c'est fou, hein. Mais...
C'est comme si tout était logique et tellement logique qu'en finalement, peu importe à quel moment t'entends parler.
Ouais, c'est vraiment ça. En fait, les choses qui sont pas très importantes, j'ai remarqué que je squeezais facilement. ça part assez vite, en fait. Je saurais même plus dire, ça me reviendra peut-être plus tard, mais je pense que c'est pas si important que ça, finalement. Mmh. Et je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de ça. Allez, je me lance. Et là, je demande... Je parle à mon patron et je dis voilà. Entre-temps, j'ai ma petite fille quand même. J'ai une deuxième petite fille où j'ai encore réduit mon temps de travail.
D'accord.
Je suis passée à mi-temps. Mmh. Voilà. Parce que je m'occupais d'elle. Je suis magnétiseuse et je restais 2 jours et demi à l'entreprise.
Bien.
Alors, il faut savoir quand même que je ne laisse pas tomber mon patron. Je trouve quelqu'un et je forme la personne. Parce que ça me tenait à cœur aussi. Je me dis bon, il faut que je fasse autre chose là, c'est le moment. Et je me dis ouais, art-thérapie, ça me parle en fait. Travailler le côté créatif. Mais pas que, c'est bien plus complexe que ça. Mmh. Et c'est pas forcément très connu en France. C'est utilisé en psychiatrie beaucoup et dans le milieu vraiment médical.
Oui.
Mais en libéral, c'est un petit peu moins connu. Et je trouve cette formation sur l'IFOR, donc qui est un organisme très sérieux et qui a le même enseignement que la Fratapem de Tours. Et donc j'arrête et je me lance dans mes études. Et du coup, la personne que j'avais formé, reprend mon poste à temps plein.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu arrives à te faire financer ta formation ou pas ? Parce que la première fois, tu m'as dit que tu avais essayé d'avoir une formation financée et que ça n'avait pas marché. Donc tu t'es dit, bon, bah, naturopathie, c'est pas pour moi. Mmh. Et là, l'art-thérapie, c'est
pas du tout.
Toujours pas.
Non, toujours pas.
Mais pourtant, cette fois-ci, tu vas pas te dire que c'est pas pour toi. Alors que la naturopathie, le fait d'avoir un refus, tu t'es dit, ben non.
Oui, alors on est en plus plusieurs années au préalable et j'ai peut-être pas la même vision aussi. Et je me suis arrêtée là-dessus. Bon, bah, c'est pas pour moi. J'ai pas insisté. Mais je pense que maintenant, je comprends pourquoi j'ai pas insisté. Et effectivement, parce que l'art-thérapie me correspond bien mieux que la naturopathie.
À t'écouter, c'est évident.
Ah oui, complètement. Mmh. Complètement.
Donc, cette formation, pour ceux qui connaissent pas, elle dure combien de temps ?
Alors, c'est 1 an. Mais en fait, on a des tomes avec des devoirs. On est noté, en fait. Hein. Il y a un cursus avec des évaluations. Tant qu'on n'est pas noté sur le premier devoir, on ne peut pas accéder au deuxième tome. Et on est corrigé par des art-thérapeutes. Après, ce n'est pas des tomes qui sont très gros, mais par contre, il y a beaucoup de travail en parallèle. C'est-à-dire beaucoup de lecture, beaucoup de compréhension. Et puis, on se retrouve aussi, à un moment donné, en groupe pour faire des exercices avec une art-thérapeute certifiée qui exerce. Là, en l'occurrence, c'était une personne qui est sur Lille, qui travaille en psychiatrie. Et qui a de nombreuses expériences, un long dossier dans le domaine. Et donc voilà, en fait, ça dure à peu près 1 an si on s'y met vraiment. Donc là, j'avais vraiment le temps de me consacrer à ça. Donc mon temps était partagé entre la petite puis ce cursus d'art-thérapeute.
Tu parles beaucoup finalement de personnes qui font de l'art-thérapie dans un milieu salarié.
Mmh.
Et pourtant... Moi, je t'accueille aujourd'hui en tant qu'auto-entrepreneur.
Dans la démarche de devenir art-thérapeute, c'est pas non plus ce qui se fait. Je m'explique. Souvent, on a déjà intégré le milieu médical et on va se former en fait en art-thérapie. Ou alors, la plupart du temps, on propose beaucoup tout ce qui est art plastique. La personne, en l'occurrence, qui nous avait formé était professeur d'art plastique, avait fait un cursus dans le domaine artistique. Dans ses études, école d'art, etc. Et s'est ensuite formée en tant qu'art-thérapeute, donc la psychologie est venue après. Moi, j'ai fait un peu le contraire, c'est-à-dire que c'est mon côté artistique qui m'a amenée vers l'art-thérapie. Donc c'est un petit peu différent, et je viens pas du tout du milieu médical.
Et tu n'as pas eu une appétence pour y rentrer particulièrement. L'art-thérapie, pour toi, tu voyais très bien comment on pouvait faire ça en libéral.
Oui, parce que je pense qu'il y a un besoin pour les enfants. Alors les adultes, c'est un petit peu plus compliqué de faire cette démarche. Mais ça s'entend, parce que quand on est adulte, on se dit « non, mais je ne vais pas aller chanter, je ne vais pas aller faire du dessin ». Il y a une espèce d'a priori, en fait. Redécouvrir sa créativité en tant qu'adulte, ce n'est pas forcément facile.
Tout à fait.
Alors que les enfants, mais c'est trop bien, parce qu'ils sont hyper connectés. Tout de suite, ils vont comprendre le truc. Enfin, il y a une démarche qui n'est pas du tout la même, parce que petit, on fait beaucoup de choses à l'école. On est encore dans ce système créatif, je dirais. C'est presque du bon sens. Donc ça matche bien avec les enfants. Pas que ça matche pas avec les adultes, hein, parce qu'il y a aussi des adultes qui ont envie d'essayer. Ça, c'est plutôt bien. Mais dans la démarche, pour les enfants, c'est pas pareil.
À l'heure actuelle, ta vie, elle est consacrée uniquement à tes activités en tant qu'auto-entrepreneur.
Oui. Je souhaite vraiment me répartir entre ces deux activités-là. Alors bien sûr, elles sont complètement différentes, même si j'ai le même numéro de sirette sur le papier. J'ai tout séparé, parce que dans le magnétisme, on est dans du non conventionnel, donc je ne veux surtout pas mélanger. Même si on va par là, ça va jusqu'au terme qu'on utilise. Magnétisme, moi, c'est consultant ou client, c'est des séances. Mais par contre, en art-thérapie, on est sur du soin et on est sur des patients. Donc la déontologie, déjà, n'est pas du tout la même. Dans les deux, il faut être sérieux.
Oui.
Un paramédical, en art-thérapie, il y a des comptes rendus, il y a des rapports. Enfin voilà, c'est pas juste on fait la séance et puis c'est tout. Il y a vraiment une analyse de ce qui se fait sur le plan thérapeutique.
Est-ce que tu as démarché autour de toi des médecins ou autres pour justement qu'ils soient prescripteurs du fait que quelqu'un ait besoin d'art-thérapie, ou est-ce que c'est plus le bouche-à-oreille qui fonctionne?
Alors jusqu'à maintenant c'était le bouche-à-oreille, mais là j'ai vraiment envie de développer et de contacter le corps médical, parce que je pense que c'est important de savoir qu'on existe, et puis aussi peut-être certaines institutions comme les maisons de retraite, parce qu'il y a aussi un besoin chez les personnes âgées,
oui.
Et je trouve que c'est un public qui est intéressant dans une autre vision, mais on peut très bien, par exemple, en art-thérapie, aller voir une personne qui n'a pas forcément envie de parler avec sa famille, mais qui a envie de laisser une trace de son passage.
Avec tes patients, on est vraiment dans un accompagnement qui va se faire plus par le champ, où tu vas finalement faire appel à toutes les formes d'art auxquelles on peut faire appel quand on est art-thérapeute.
Alors, c'est important d'en parler, effectivement, parce que moi, je préfère le champ. Évidemment. Mais en art-thérapie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait un petit peu comme en hypnose, c'est-à-dire qu'on va un petit peu voir la vie de la personne, ce qui s'est passé au niveau personnel, s'il y a eu des opérations, s'il y a eu des accidents de la vie, des chocs émotionnels. Et à partir de là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est toujours sur, on va utiliser ce qui va bien chez la personne pour qu'elle aille encore mieux. On va pas se focaliser sur ce qui s'est passé, mais il faut qu'on ait une trame, en fait. Et quelque chose de très important aussi à prendre en compte, c'est que la personne, elle n'aime peut-être pas forcément chanter. Et donc, on va regarder ce qui lui convient le mieux, parce qu'on ne va pas la mettre dans une contrainte. Alors, on va voir si c'est plutôt le côté visuel, si ça peut être le toucher, parce que par le toucher, ça peut être aussi du sable, ça peut être aussi de la pâte à modeler, toutes ces choses-là. Alors, non, tout le monde ne vient pas pour chanter.
Et ça te convient quand même?
Oui, 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 non, bien sûr. Parfait. Parce que ça permet aussi de s'adapter. On n'a pas besoin, en fait, pour ma part. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10 en dessin. Le tout, c'est d'amener la personne à, elle, être dans sa créativité.
Tout à fait, je suis bien d'accord. Je te remercie d'être venue témoigner.
Ben, merci beaucoup, c'est gentil de m'avoir reçue.
Et puis, au plaisir de te recroiser.
Eh bien, avec plaisir.
Vanessa, Sophie, Clara, Estelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes. Bienvenue, aujourd'hui je reçois Émilie qui est art-thérapeute. Bonjour Émilie.
Eh ben bonjour Sophie.
Comment es-tu devenue art-thérapeute ?